Europe 1, bien fait pour vous. Les tendances.
Il est midi 3 et donc l'heure de se mettre à table. Nos estomacs commencent à faire du bruit dans ce studio. Mélanie, c'est vous, je sais. Je ne sais pas si vous l'entendez, mais ça gargouille autour de la table. Alors, je suis certaine qu'il y en a une qui va régler notre problème. C'est Marion Sauveur avec vous ce matin. On se remet à faire des bocaux maison, c'est bien ça?
Et oui, puisque la tendance explose depuis quelques années. On s'y remettait déjà avant les confinements successifs. Et depuis le début de la pandémie, c'est vraiment le grand retour des conserves maison dans des bocaux en verre. Et ça continue. Ça, c'est plutôt une bonne nouvelle, hein, puisque ça permet de cuisiner au fil des saisons, de profiter donc des fruits, des légumes tout au long de l'année. Par exemple, on va cuisiner des tomates l'été et qu'on va manger en plein hiver. Aussi, de contrôler ce que vous mangez, on va limiter le sucre, le sel à l'intérieur, les conservateurs bien sûr, puisqu'on cuisine maison. C'est convivial, on va réaliser des petites recettes en famille qu'on va ensuite déguster ensemble tout au long de l'année. Et puis les bocaux, c'est beau sur
c'est
les
clair,
étagères.
C'est clair, en déco, c'est trop joli, j'avoue.
Mais oui, est-ce que vous en avez déjà fait?
Non, moi, j'ai les bocaux vides, c'est comme le vélo, mais je ne les ai jamais remplis.
Mais il faut les remplir.
Si, moi, je les pique chez ma mère, pardon. Quand je vais voir ma maman, je repars avec de la sauce tomate, du bœuf bourguignon dans ma valise en espérant que ça se...
C'est un truc de mère ou de belle-mère, le bocal. La belle-mère vous envahit avec des bocaux.
Il faut s'y mettre.
C'est pas une technique de conservation nouvelle, hein, pourtant.
Non, il faut remonter à la fin du XVIIIe siècle quand le confiseur Nicolas Appert a mis au point la stérilisation. Ben oui. L'idée, c'est donc de placer les aliments dans un récipient hermétiquement fermé et de monter la température à plus de 100 degrés. On s'y prend aujourd'hui toujours de la même manière. Alors, il y a des règles à suivre. J'ai demandé à Maxime Bertrand, le chef du restaurant Presqu'île à Paris, quelles sont ses astuces pour réussir les bocaux.
Il faut toujours respecter donc ce qui est dedans. Ne dépasse pas la ligne maximum, que le bord soit bien propre, que ce soit bien fermé. Et il faut toujours, en tout cas, que l'eau, la température dans laquelle on met le bocal, normalement c'est 100 degrés, soit plus chaude que ce qui est à l'intérieur du bocal. Il faut que ce soit droit et il faut que l'eau vienne jusqu'à la hauteur de ce qui est à l'intérieur du produit. Et après, c'est vrai qu'on peut y conserver des recettes faites auparavant. C'est ça tout l'avantage. On fait une soupe, par exemple, en ce moment, c'est pas mal la saison des soupes. On fait une soupe de courge. Et ben en fait, on en fait un petit peu trop. Ben on prend un bocal adapté, on le stérilise et puis on a une soupe pour une prochaine fois.
C'est génial.
Et voilà, j'adore
l'idée.
Votre soupe se conserve plusieurs mois à l'abri de la lumière, ça c'est important. Mieux encore, vous pouvez réaliser des cakes individuels. Vous faites votre pâte naturellement, vous la faites cuire dans votre bocal, dans le four, comme dans votre moule à cake d'habitude. Et puis après, vous fermez, vous stérilisez et vous avez des cakes que vous pouvez manger tout au long de l'année.
J'aurais jamais pensé à faire un cake en bocal.
Ah non.
Vous pouvez vous amuser. Donc avec des produits de saison, en ce moment ce sont les champignons, je vous cache rien. Et Maxime Bertrand propose samedi donc un live en partenariat avec Les Bocaux Le Parfait. Il va réaliser donc une recette à base de champignons sauvages qui sont rôtis.
J'y serai moi, c'est génial.
Il va les conserver dans de l'huile d'olive que vous pourrez ensuite réutiliser puisqu'elle va prendre le goût des champignons. C'est génial, on ne jette rien. Le live donc est à suivre sur le site Le Parfait.
Génial. Ah bah c'est génial. Et vous avez pas une idée de recette facile à faire à la maison, un truc vraiment simple s'il vous plaît.
On va faire un petit houmous, vous connaissez le houmous,
oui,
c'est un
bon
petit
ça.
Condiment
j'adore.
Réalisé à partir de pois chiches et d'une crème de sésame. Mm-hmm. Et on peut s'amuser un petit peu à changer les ingrédients ou à en rajouter, notamment des produits de saison comme la betterave rouge. Alors on va faire un houmous de betterave et on va commencer par égoutter les pois chiches. On garde par contre l'autre pois chiche, la coiffaba, parce qu'on va réaliser par exemple une mousse au chocolat avec, ça va permettre de remplacer les blancs d'œufs.
On ne jette rien.
On ne jette rien. Et on va mixer donc ces pois chiches avec les betteraves qu'on a épluchées et qui sont cuites. En morceaux, on ajoute l'ail, le jus de citron. Le jus de citron, c'est important, c'est pour que le houmous ne s'oxyde pas dans le temps. L'huile de sésame, on assaisonne. Il faut que la texture soit bien homogène et vous allez voir un houmous rose. Rose bien vif, c'est hyper agréable. Vous remplissez vos terrines et vous stérilisez pendant 45 minutes à 100 degrés. Et comme ça, vous conservez dans vos petits bocaux et vous servez à l'apéritif tout au long de l'année, dès que vous avez des amis qui débarquent à l'improviste.
C'est génial. Et si on n'a pas envie de cuisiner, est-ce qu'on peut trouver des bocaux tout prêts?
Ah oui, même
des bons bocaux.
Pas
hein.
N'importe
j'en
quel
ai
bocaux.
Devant moi.
Ouais. Des bocaux avec les plats qu'on peut manger au restaurant chez les chefs comme Stéphane Jégot à la Mijan ou encore David Radjébert de l'Assiette. Ça sont deux restaurants parisiens. Ces plats de chef, on les retrouve sous la marque Bocaux de Chef et vous avez une de leurs recettes à déguster.
C'est du bœuf qui a l'air tellement tendre. Enfin, ça, c'est
bon.
C'est un des plats plat de
Moi,
Stéphane
Gégaud. Moi, j'ai une poulet de volaille colombo d'aubergine.
Moi, c'est quoi ce que je mange?
Alors, ça, c'est dans votre assiette, ouais. Le bœuf confit est grillé à l'origan. C'est un plat de Stéphane Gégaud. Donc, beaucoup de chefs qui proposent plusieurs coffrets pour Noël, notamment un trio de chefs avec le cassoulet de David Radjeber et la blanquette de veau revisitée au panais de Guillaume Delage.
C'est délicieux. C'est
Je vais vous offrir le cassoulet, Julien.
Mais il n'y a rien à faire. En plus, on ouvre le bocal et voilà.
C'est le principe, en fait.
C'est ça que j'adore.
Il faut réchauffer quand même.
Vous le faites réchauffer. Il y a même un QR code sur le bocal qui vous permet de voir comment le chef vous conseille de le réchauffer.
Ah,
sinon,
va,
au bain-marie, à la casserole, au four, en fonction, c'est noté dessus. À Lyon, il existe une belle initiative, celle de jeunes chefs qui récupèrent les produits déclassés à des producteurs de la région et cuisinent avec. Ce sont des recettes en beaux côtés, stérilisées toujours de la même manière. Ça s'appelle les confinades. Ça marche aussi en click and collect ou aussi sur Internet, dans toute la France. Et puis, il y a d'autres chefs qui travaillent derrière d'autres bocaux, cette fois, qui sont frais ou pasteurisés. Ce sont les bocaux BOCO que vous avez devant vous.
Alors, moi, j'ai quelque chose qui vient d'Emmanuel Renaud, un grand, grand chef.
Voilà,
lasagne de polenta, champignons, épinards.
Ça a l'air bon, ça aussi.
Bah, c'est le mien.
Jean-Michel,
vous avez quoi?
Moi, je l'avais dit, j'ai la poulet de volaille, colombo d'aubergine aux fruits secs, lentilles blondes de curry de Madras.
Ça m'a l'air très bon aussi.
Ouais,
hein.
Ça a l'air super.
La blanquette de saumon safrané. Vous avez aussi des desserts comme celui-ci qui est signé Philippe Conticini.
Oh là là,
c'est une crème de pralin.
Pour la petite crème toute chocolat là, qui est devant moi, elle a l'air délicieuse aussi. Hein.
Mais oui, mais ce sont des petits bocaux délicieux, très gourmands, des recettes savoureuses qu'on retrouve dans les restaurants Bocaux BOCO ou dans les hôtels, puisque maintenant, on trouve ces petits bocaux dans les hôtels.
Très bien, merci beaucoup Marion.
On retrouvera votre recette de mousse aux betteraves sur europe1.fr.
Merci pour cette belle chronique. Ne bougez pas Marion, dans quelques minutes, d'autres tendances arrivent. On va tester la tendance des restos-boîtes avec Edouard Dutour, qui va nous faire danser, j'imagine. Et puis avec Sophie Braffman, notre experte mode. On va voir que la mode, les marques de vêtements, pensent de plus en plus aux personnes en situation de handicap en créant des collections qui leur sont plus adaptées. A tout de suite sur Europe 1.
Europe 1, 11h, 12h30. Julia Vignali et Mélanie Gomez.
C'est bien fait pour vous jusqu'à 12h30 et notre séquence tendance continue. Et puisqu'il y a toujours une très bonne ambiance dans ce studio, je vous propose qu'on aille peut-être bientôt faire la fête tous ensemble. D'autant que Edouard Dutour, ici présent, a quelques adresses à nous conseiller, je crois. C'est à vous, Edouard.
Oui, bonjour les filles, bonjour à tous. Cette semaine, je vais vous parler d'une tendance qui s'adresse évidemment à toutes les auditrices, tous les auditeurs, mais spécifiquement aussi à mes deux animatrices chéries, Julia et Mélanie, qui se lèvent à 4h du matin.
Oh, c'est surtout moi, c'est un peu plus tard.
Excusez-moi, mais qu'est-ce qu'on vient faire dans cette histoire?
Mais en fait, il s'agit de la dernière tendance festive qui fait fureur à Paris, et puis aussi déjà dans de nombreuses villes de France en province. Ça s'appelle le restaurant club. Mmh. Alors attention, dit comme ça, ça fait un peu polisson, genre d'établissement où on mange des cassolettes tout nus et tout frétillant, mais c'est pas du tout ça.
Que vous qui aviez pensé à ça, hein.
Dans le restaurant club, c'est pas du tout ça. Il s'agit d'un genre de nouveau d'établissement qui propose une soirée deux en un. Concrètement, on dîne et on guinche et on danse au même endroit.
Ah ouais, d'où vient cette envie de danser à nouveau en fait?
Ben je sais pas si vous avez remarqué, mais depuis le mois de septembre, depuis la rentrée, les gens ont une folle envie de s'amuser.
C'est vrai. Hein.
On voit, je sais pas, vous ouvrez votre Instagram le lundi, vous voyez que des fêtes partout. Il y a une envie de danser prise. Il y a une envie de disco plus que de dodo. Il y a des reportages partout, hein, dans la presse. Il y a, voilà, on voit autour de nous que
Marion
les gens.
Marion Sauveur, cette coquine, elle est la fête. Je crois qu'elle est une guincheuse.
Ah ouais, les gens ont envie de faire la fête. Alors c'est assez simple à analyser. Hein. C'est vrai qu'il y a un effet. Post-Covid, c'est un peu...
C'est pas fini malheureusement,
mais enfin, il y a quand même post-confinement, je dirais plutôt. Il y a eu surtout la réouverture des lieux festifs, il y a un petit frémissement économique. J'ai envie d'être très optimiste aujourd'hui.
Oui, je vois ça.
Qui donne quand même le feu aux Français. Et puis parfois, vous savez, comme on dit, quand l'actualité est difficile, c'est l'inverse. On dit parfois qu'on danse sur les tombes, et là, on a vraiment envie de s'amuser.
Et alors justement, quoi de neuf sous le soleil?
La grande nouveauté, c'est que cette fièvre du samedi soir, voire du vendredi soir, voire du jeudi soir, parce qu'elle finit pas tard.
Mais oui.
Et ben, elle touche de façon significative les plus de 40 ans, hein, dont on fait partie certains autour de ces micros. C'est très simple. Avant, il y avait un schisme net. Il y avait les jeunes qui appellent resto, pas les moyens d'aller au resto, et qui arrivaient directement en boîte de nuit, hein, souvent avec une bouteille de vodka. L'alcool est dangereux à la santé, vous le savez. Planqué dans le sac à dos, vers minuit, on allait en boîte.
Ça
minuit, minuit, minuit.
Mais...
C'était pile l'heure où les vieux comme nous commençait à piquer du nez dans le tiramisu et rentrait dardard se coucher parce qu'il fallait bosser le lendemain. Et puis, de toute façon, il était déjà tard. Donc, en gros, ce qui se passait, c'est que quand on avait une quarantaine d'années et plus, on n'était pas allé en boîte de nuit depuis 20 ans. Excepté, le fameux séminaire d'entreprise qui peut finir mal. On avait la folie d'un soir d'été où on dit, allez hop, on va danser. Et puis, on avait aussi la rupture sentimentale.
On lâchait tout.
On lâchait tout. On disait, il faut que je sorte pour retrouver quelqu'un. Mais autrement, c'était quand même pas facile d'aller danser. quand on avait passé un certain âge. Eh bien, aujourd'hui, c'est possible avec ce nouveau phénomène des restaurants clubs. Et vous n'aurez pas l'air d'Edouard Balladur dans une rêve partie, je vous promets.
Mais ils ressemblent à quoi, ces nouveaux endroits ?
Alors, en fait, c'est plein d'endroits qui ressemblent à des... C'est des jolis restaurants. C'est pas du tout une boîte de nuit où on vous amène à manger. Ce sont des jolis restaurants où on dîne souvent très bien, où on prend quelques cocktails assez bien faits. Et en fait, le truc, c'est qu'il y a un petit espace, souvent un sous-sol ou un étage, ou une petite salle un peu cachée, qui est une petite boîte de nuit surprise qu'on propose aux clients. Alors, vers 23h, voilà, on a fini de dîner, et puis d'un coup, on va s'agiter comme des possédés, on prend un petit shot, on s'éclate.
C'est
on
la croit surprise qu'on, dans le bocal,
voilà,
là.
On croit qu'on a 20 ans, on danse le Madison sur des chansons modernes, mais
oui,
c'est pas grave.
Je dis oui.
Et puis, à 1h du matin, grand maximum, un Alka-Seltzer et au lit.
Mais c'est la vie, ça, ce que vous racontez.
Ouais, c'est pour vous. Enfin, vous, il vous restera que 3h à dormir. Bon, par exemple, les têtes de gondole de ces phénomènes à Paris, c'est le Piaf, hein, où on peut danser debout sur la table en chantant des très forts et très faux. Et puis, à bientôt, le Bœuf sur le Toit. Vous savez, c'est un établissement culte parce qu'il appartenait à Jean Cocteau qui va rouvrir. Mais il y en a plein comme ça. Et puis, il y en a partout en France.
J'allais vous demander, ça existe vraiment partout en France ?
Oui, ça existe partout en France. Mais moi, ce que je trouve qui est bien, c'est qu'on peut le faire à la maison.
Ah,
c'est qu'en fait, il faut surfer sur cette vague.
Julia, ça,
surfer sur cette
génial.
Vague d'énergie et de folie. Ce que vous faites un petit dîner et puis
à 18h,
au lieu de parler
chez
politique et de vous engueuler à 23h, et ben vous poussez les meubles et puis vous mettez la musique à fond, vous dansez pendant 2h. Et après, une soupe au lit, au revoir madame, et tout le monde s'éclate.
Julien nous invite à 18h, à 19h, elle nous fout dehors. Ouais.
23h à Claude François, et minuit...
23h, mais mon pauvre monsieur, je dors depuis longtemps. Mais c'est vrai que j'invite mes amis vers 18h, 18h30. Mmh. À 22h, on commence tous à être très très fatigués. On fait les foufous, on pose les meubles. À 23h,
tout le monde est parti.
Et bien, vous avez inventé le Resto Club, cher Julien.
Mais c'est génial.
On s'invite ce soir.
Merci Edouard pour cet éclairage sur les nouvelles tendances pour aller faire la fête.
Je vous emmènerai, promis.
Ah ouais, venez tous à la maison. Bon, à présent, on va se plonger dans l'univers de la mode avec l'excellente Sophie Braffman. Sophie, vous nous proposez une chronique tout à fait dans l'actualité, n'est-ce pas ?
Oui, dans l'actualité, et j'en ai eu l'idée en discutant avec notre ami et super chef Grégory Cuilleron, qui me disait que cette semaine, c'était un peu son canne à lui. Alors voilà, pourquoi c'est son canne ? Parce que c'est la semaine européenne de l'emploi des personnes en situation de handicap. Alors évidemment, certains vont se dire « Oui, mais c'est pas normal que ça soit juste une semaine, ça devrait être toute l'année. »
Oui.
Moi, je me dis que vu le néant d'où l'on vient, eh bien c'est déjà mieux que rien. Alors, quelques chiffres. Rappelons qu'il y a 12 millions de personnes en situation de handicap en France, 850 000 à mobilité réduite. Très peu sont visibles encore dans l'univers du travail et pourtant, 90% des travailleurs en situation de handicap n'ont pas besoin d'un aménagement de poste, bien au contraire. Donc, il est temps que les choses changent et évoluent.
Et donc, même dans la mode, ça évolue, les choses changent, les personnes handicapées seraient les bienvenues aujourd'hui ?
Alors, la mode, effectivement, cet univers assez impitoyable évolue malgré tout, chère Mélanie, ça s'appelle la mode adaptive. Et quelques exemples de campagnes qui ont déjà fait, en fait, l'éloge à la différence. Alors, Gucci, qui n'a pas hésité à prendre comme new face, nouveau visage, une jeune femme atteinte de trisomie 21, Ellie Goldstein. L'incarnation du parfum libre Yves Saint Laurent, faite par Louise Parent, qui, du haut de son 1m20, est devenue une véritable personnalité de la mode et collabore aujourd'hui avec de nombreuses marques. Je vous invite d'ailleurs à aller voir son Instagram, qui est plein d'humour. On la voit apparaître, disparaître en plan magique derrière un sac Prada. Et elle nous dit « Votre différence, c'est votre style. Votre style, c'est votre différence. » Quand on parle de mode grand public et accessible, là non plus, on n'est pas en reste, comme Asos, qui a décliné plusieurs campagnes de pub avec des mannequins en fauteuil roulant ou alors une mannequin sourde posant avec son appareil auditif. Ah, pardon, je crois qu'on ne dit pas sourde. On dit personne malentendante. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, il faut employer aussi des périphrases. Mais en tout cas, le message, lui, est clair et entendu.
Mais du coup, que je comprenne bien, ces marques, elles proposent des vêtements adaptés aux personnes en situation de handicap ou c'est juste une façon détournée de faire parler d'elles ?
Alors, un peu des deux, Julia. Ah, je vous dirais très clairement, quand on parle de ces marques qui emploient des personnes en situation de handicap, bien évidemment qu'elles vont faire le buzz et on est content, on regarde, on se dit tiens, les choses changent, c'est formidable, c'est alternatif. Bon, en même temps, elles le font tout de même, donc on peut reconnaître quand même une bonne nouvelle là-dedans, c'est quand même une bonne chose. Et d'autres marques, elles par contre décident carrément d'aller un peu plus loin et de lancer des collections adaptées aux personnes en situation de handicap, puisqu'il y a plein d'aspects techniques tout de même quand on fabrique un vêtement, et ça il faut bien le dire. Donc la marque Tommy Hilfiger, elle l'a fait au printemps dernier, alors on peut retrouver des vêtements avec des fermetures auto soie grippante sur un jean, taille ajustable sur un pantalon, ouverture aimantée. Et alors, pour une marque réputée aussi pour des tout petits prix, Kiabi qui l'a fait, tout en conservant ses prix, en partenariat avec une marque qui connaît bien ses problématiques et qui s'intitule Les Loups Bleus, et notamment pour des enfants qui sont en fauteuil roulant. Alors, les choses changent, évoluent. La vraie question aujourd'hui, c'est de savoir, est-ce que les marques de mode emploient aussi des personnes en situation de handicap? Est-ce que c'est possible? Et pour ça, j'ai posé la question à Katia Dayan, présidente et fondatrice de l'agence Les Papillons de Jour, qui aide et accompagne les entreprises dans le recrutement de ces personnes.
Le handicap n'est plus un sujet tabou aujourd'hui. Et moi, ce que j'ai envie de dire, c'est qu'il faut rester positive. Travailler, bien évidemment, et ça, c'est essentiel sur l'accessibilité à Paris et en France en général. Donc, l'inclusion, c'est bien. L'embauche directe, c'est bien. En sachant qu'il faut pouvoir se déplacer et se rendre à son travail. Nous avons plusieurs marques de grands groupes comme Sandro, Maje, Dolce Gabbana, avec qui on travaille, Polka. Donc on a beaucoup, beaucoup de clients qui sont dans le domaine de la mode, et je pourrais vous en citer encore et encore. Et on travaille ensemble sur des véritables campagnes de sensibilisation en interne pour faire avancer les choses.
Donc ce que nous dit Katia, et c'est intéressant, il faut effectivement communiquer, il faut accompagner les entreprises, parce que de nombreuses entreprises ne savent pas qu'elles peuvent employer ces personnes et s'imaginent que ça va être très difficile. Mais comme je le disais, souvent il n'y a pas besoin d'adapter le poste de façon très spécifique, donc en fait c'est beaucoup plus simple qu'on l'imagine. Et j'ai voulu voir donc la preuve par l'exemple. J'ai rencontré une autre jeune femme qui s'appelle Fleur. Elle a fondé une marque qui s'appelle Ayele Fleury. Alors c'est une très jolie marque de linge de maison et qui emploie des personnes en ESAT, on appelle ça un établissement au service d'aide par le travail. Et donc, ils fabriquent du linge de maison extrêmement coloré à base de ces tissus, vous savez, le wax.
Ciré, cire d'abeille un peu, hein, c'est ça, non?
Oui, c'est ces tissus africains aussi, savez, avec des prints très forts,
exactement.
Et qui sont donc très beaux. Et donc, elle explique pourquoi elle a choisi de travailler avec des personnes en ESAT.
Je travaille avec des ESAT depuis les tout premiers pas d'Ayele Fleury. En fait, leur confier la fabrication de nos articles de linge de maison, c'est une façon pour moi de contribuer à réduire certaines discriminations en donnant une place dans la vie active aux personnes en situation de handicap. Et ça fait vraiment partie des valeurs que j'ai envie de transmettre avec Ayele Fleury. Et franchement, c'est pas qu'un joli discours, parce que travailler avec ces ateliers, ça demande une vraie implication. Il y a une dimension humaine importante. Il faut respecter le rythme des travailleurs, savoir être patiente malgré mes deadlines, être compréhensive aussi, sans pour autant faire l'impasse sur mon exigence de qualité pour la confection. Donc je pense pas que ce soit compatible avec des ambitions uniquement axées sur le profit.
Pas uniquement axé sur le profit, ça c'est une certitude. Donc, morale de l'histoire, quand l'éthique embraye le pas sur le profit, peut-être que là, on arrive enfin à quelque chose de vertueux et vertueux pour tout le monde. On parle de cette problématique d'être vertueux dans la mode, eh bien, ça passe peut-être justement par là.
Merci beaucoup Sophie. Je me tourne vers vous, Édouard Dutour, qui est journaliste pour le magazine Elle. Est-ce que cette tendance, justement, de la mode qui s'ouvrirait vers les personnes en situation de handicap, c'est quelque chose que vous confirmez, que vous avez remarqué, justement, au magazine?
Je crois, oui, c'est en train de bouger. D'ailleurs, je lis votre t-shirt sur Sophie, où c'est marqué handicap. Je crois que la mode a compris aussi évidemment l'importance de ce message. Ça s'inscrit dans une démarche globale d'inclusivité. En gros, pour le faire simple, c'est que tout le monde n'est pas jeune, mince, blanc et riche. Mm-hmm. Bon, si ça arrivait jusqu'aux oreilles de la mode et aux yeux de la mode, c'est que quand même, c'est une bonne nouvelle.
Fort, ouais.
Et à la fois la mode, vous savez, on dit que c'est très difficile. On dit que c'est très difficile et c'est à la fois le reflet de la rue et souvent ça saisit les tendances avant tout le monde. Donc on peut que se réjouir de ce phénomène de handicap.